France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Jacques Chirac ne s'arrête jamais. Épisode 5, le roman de Chirac. Faire de la politique, c'est bâtir son propre roman, chercher à sculpter son image en racontant une histoire et espérer qu'elle résonnera avec les aspirations et les attentes du plus grand nombre possible d'électeurs. Évidemment, il faut faire face à des contre-narrations, celles des ennemis politiques qui cherchent à vous décrédibiliser, mais aussi celles des journalistes qui tentent de révéler vos zones d'ombre, vos contradictions ou vos incohérences. Pour mieux maîtriser l'histoire que l'on raconte à votre sujet, une méthode consiste à rédiger des mémoires, fournir des documents de référence, graver son image dans le marbre, et Chirac a fait tout cela. Ce sont ces batailles de récits autour de lui, ainsi que la manière dont cet homme a tenté de maîtriser son image, que nous allons raconter au cours de ce cinquième épisode. Il commence par une archive de décembre 1977. Jacques Chancel y interroge le tout nouveau maire de Paris sur son rapport à la télévision.
Comment vous trouvez-vous, vous, à la télévision ?
Eh bien écoutez, moi je ne me trouve pas.
D'abord, vous êtes
parce
obligé
que, en règle générale, je ne me vois pas, étant donné que je suis à la télévision et que c'est la plupart du temps en direct. Si j'en crois ce que l'on me dit, je ne suis pas très bon, et pas que je suis trop dur, que... Enfin, j'ai fait un effort, je viens de changer mes lunettes, vous voyez. Et on me dit que ça va mieux, vu que j'ai changé mes lunettes. Alors,
là, vous n'avez pas de lunettes. L'audio.
Non, mais là, je ne les ai pas, parce qu'en fait, je ne les porte pas toujours. Enfin, à la télévision, je les porte.
Enfin, vous êtes conscient que le physique a de l'importance à la télévision.
Ça, j'en suis persuadé, oui.
Et vous avez un physique.
Ah oui, comme tout le monde.
Non, mais enfin, mieux que tout le monde, peut-être, parmi les autres politiques.
Oui, écoutez...
Mais
vous me permettrez de ne pas porter un jugement direct sur ce point.
Vous êtes sûr de vos atouts. Vous êtes sûr de vos atouts.
Non, on n'est jamais sûr de ses atouts. On n'est jamais
sûr.
On n'est jamais sûr de ce. Oui, j'ai une certaine tendance à être sûr de moi. Je ne suis pas quelqu'un de craintif par nature, effectivement.
Quelqu'un de timide, peut-être.
Tout le monde est timide. Tout le monde a sa forme de timidité. Il n'y a que les brutes qui ne le sont pas. Et tout dépend de la manière de l'exprimer, de la façon de le dominer, de l'expérience qu'on a pour cela, d'ailleurs, car cela s'apprend aussi à dominer sa timidité. On l'est d'ailleurs plus ou moins. Mais tout le monde a une certaine timidité.
Jean-Luc Barret, vous êtes écrivain et président des éditions Plon. Vous avez écrit avec l'ancien président ses mémoires, publiées aux éditions Nil, ainsi que d'autres ouvrages sur lui, comme Chirac confidentiel, aux éditions Pluriel. Qu'est-ce que vous pensez de cette archive ?
Oui, c'est toujours un peu ce Chirac-là qui est barricadé quand même. Il est conscient de sa beauté. C'est un homme extrêmement beau. Et même dans le grand âge, il était très beau.
Vous en avez parlé avec lui ?
Non, il y a des sujets qu'on n'abordait pas. Je pense qu'il aurait réagi de la même manière, mais qu'il a réagi vis-à-vis de Jacques Chancel, si je n'avais parlé. Il aurait sans doute se serait gaussé de ça, mais il connaissait exactement ses atouts. D'abord, c'était un séducteur. Il avait une façon d'aborder les... Mais encore une fois, c'était pas un séducteur écrasant, c'est un séducteur très sûr de lui, et en même temps plein de doutes sur beaucoup de sujets. Voilà, pas sur son physique, mais c'est quelqu'un qui doutait profondément de lui-même.
Sur quel sujet doutait-il le plus ?
Je pense qu'il doutait... Précisément, quand je disais qu'il n'aimait pas parler de lui, c'est vrai. Je pense que, par exemple, il lui arrivait à un moment donné d'avoir un raisonnement extrêmement construit et puis de s'arrêter. Il me dit mais j'ai dit une connerie là. Et ça venait d'où d'ailleurs ? Ça venait du fait que il avait été formé par un père extrêmement dominateur. Je pense qu'il n'avait pas confiance en lui en fait. Ensuite, il a eu des tuteurs successifs. Je vais un peu vite, mais les tuteurs, ça a été Georges Pompidou, ça a été le couple Garot-Juillet, ça a été Bernadette, qui sont tous des gens qui ont essayé d'une certaine manière de le construire. Et lui se dérobait par de divers systèmes.
Comme un éternel adolescent.
Un éternel adolescent qui, donc du coup, n'avait pas suffisamment confiance en lui. Mais par contre, il y a des moments. Et je me souviens d'une phrase de lui, il me disait, je n'ai pas beaucoup d'idées, mais quand j'ai une idée, j'y tiens. Et quelque part, c'était, donc il y avait chez Chirac des idées pas fixes, mais des visions parfois, une vision du monde, de l'humanité, je parlais de justice sociale, etc., des autres, sur lesquelles il était assez intransigeant.
Qu'est-ce que ça vous fait de réentendre ses archives et de réentendre sa voix, Jean-Luc Barré?
C'est beaucoup d'émotion, parce que je l'ai d'ailleurs beaucoup aimé, mais j'ai eu la chance de le côtoyer de manière un peu privée, même si c'était professionnel, et où j'avais le sentiment de côtoyer le vrai Chirac, charmant, drôle, incisif, etc. Tout ce que je retrouve pas là. Moi, la vraie tristesse que j'ai, c'est de me dire que cet homme n'a pas exprimé publiquement suffisamment la vérité de ce qu'il était. Ça, c'est une vraie... Alors, c'est pour ça que j'étais très heureux de l'accompagner dans l'écriture de ses mémoires. Je l'ai poussé vraiment dans ses retranchements. Il ne souhaitait pas écrire ses mémoires. C'est pas son idée. C'est l'idée de Claude Chirac, sa fille. Mais elle a eu, c'était une très belle idée. Et il s'est pris au jeu parce que nous avons commencé par rire ensemble. Nous avons commencé par être dans une relation presque pas de plein pied, mais presque. Mais, il fallait pas que ce soit trop sérieux. En même temps, évidemment, c'était un exercice sérieux. Je crois avoir trouvé la bonne façon de vaincre chez lui, cette extrême réserve qui était la sienne. Il y avait deux langages chez lui. Il était capable de s'exprimer de manière extrêmement technique. Et puis, il y avait un côté Michel Audiard, un côté drôle, un côté avec un langage. Il y avait deux façons de s'exprimer chez Chirac. Vous savez, il y a des formules qu'on connaît de lui et qu'on retrouve pas, évidemment, dès qu'il est derrière un micro. Il est très mal à l'aise devant une caméra, très mal à l'aise devant un micro, parce que là, il y avait comme s'il y avait une espèce, automatiquement, comme s'il se protégeait. Voilà, comme s'il y a des choses chez lui qu'il ne voulait pas livrer, et il pensait qu'au fond, le rôle d'un homme politique, c'est d'être cela, d'être ce personnage un peu de façade.
Jacques Chirac ne semble pas toujours à l'aise avec le média télévisuel. Il y a un parfum de mauvais acteur dans ses interventions officielles. Le chroniqueur à Télérama Alain Raymond l'avait croqué dans son magazine le 16 novembre 1994. Il écrit « Chirac, on le regarde, on l'écoute et rien à faire, il n'est pas synchrone. Il y a de la conviction dans les gestes, mais les mots, eux, sont à côté. » Comme s'il se rendait compte, au fur et à mesure qu'il parle, que ce qu'il est en train de dire ne correspond absolument pas à ce qu'il voulait dire. Il hausse les sourcils, ouvre large les bras, dresse le pouce et l'index. « Attention, je vais dire des choses importantes, essentielles. » Et ce qu'il finit par articuler dépasse en banalité ce qu'il y a de plus convenu dans l'inattendu.
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est valoriser nos atouts. Et c'est... diminuer nos handicaps.
Jean-Luc Barré, sur cette idée d'un Chirac gesticulant, finalement très général dans ses propos et parfois banal dans le fond, qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Oui, il n'y avait pas chez lui une maîtrise, je ne dis pas physique, parce que ça, il était grand, donc effectivement les gestes étaient un peu amples, mais il n'y avait pas une maîtrise du vocabulaire, il n'y avait pas une maîtrise de l'expression de la pensée, et il pouvait être très banal sur des sujets. Alors le mot handicap, bien, au passage, est un mot très important pour lui, parce que ça le renvoyait à des vraies actions qu'il a menées sur la lutte sur le handicap, ne serait-ce que pour des raisons personnelles. Mais Chirac est un acteur qui est parfois à contre-emploi, dont le texte n'est pas toujours juste, parce que c'est pas le texte qu'il a choisi, et il est dans un rôle au fond, mais le vrai Chirac, par exemple, c'est celui que vous allez trouver à Jérusalem, lors de son voyage en Israël, où subitement il va exploser parce qu'il est entouré de gardes israéliens qui l'empêchent de s'exprimer. Là, c'est le vrai Chirac. Il faut bien voir que d'une certaine manière, on l'a conditionné. Et il s'est laissé conditionner, et je pense qu'il y a une forme de banalité. Le jugement qui est porté sur lui est assez juste. Comme s'il n'était pas... C'est pas lui, tout à fait, qui s'exprime là. Mais c'est aussi la manière, entre nous soit dit, dont il a pu conquérir le pouvoir. Je pense que est-ce que le vrai Chirac, qui aurait exprimé totalement ce qu'il était, aurait pu conquérir le pouvoir? Peut-être pas. Donc il correspondait, au fond, à une certaine attente. Ce personnage-là correspond à une certaine attente, peut-être des électeurs, et peut-être aussi des gens qui le soutiennent.
Mais c'est ce qui fait qu'il ne restera pas dans l'histoire de France à l'égal d'un général de Gaulle, dont pourtant il se revendiquait, parce qu'il a fait trop de compromis, finalement, avec lui-même. On pourrait imaginer un homme politique bien plus grand s'il avait été en phase avec lui-même, Jean-Luc Barré.
D'abord, Chirac, quand vous lui parliez de l'histoire, la postérité, il vous riait un peu au nez. considérait qu'il resterait personne en dehors du général de Gaulle. Et peut-être François Mitterrand, pour lequel il s'était pris de passion à la fin de sa vie. Donc il n'y avait aucune idée de laisser une trace chez lui, il avait un sens de la relativité. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le bilan que l'on fait de Jacques Chirac, c'est que ce qui reste chez Chirac, c'est quand même des gestes forts. L'Irak, c'est pas rien d'avoir refusé de partir en guerre en Irak. C'est des symboles, je veux dire, le discours du Veldiv est important. Le musée du Quai Branly aujourd'hui est important. Alors, qu'est-ce qui restera des uns et des autres ? La postérité en décidera. Lui, je pense qu'il avait le sentiment, de toute façon, qu'effectivement, il ne resterait sans doute pas grand-chose de lui. Mais moi, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué que ça. Il faudrait passer des heures à faire le bilan de Jacques Chirac. Moi, je pense que ce bilan, à bien des égards, aujourd'hui, nous parle et dit des choses. Il y a des messages qu'on pourrait entendre sur une certaine vision de la société, sur une certaine vision de l'histoire, sur une certaine vision du monde aussi.
Rassembleuse.
Oui, rassembleuse, mais aussi pionnière. Je veux dire par là que il avait le sentiment d'un certain déclin du modèle occidental, par exemple. Alors peut-être que ce déclin ne se vérifiera pas, mais conscience de l'émergence de grandes nations comme la Chine ou du rôle fondamental de la Russie ou de l'importance de l'Afrique, par exemple, qui était convaincu que l'Afrique était le continent d'avenir. Alors vous allez me dire, c'est banal de dire ça aujourd'hui.
Donc un président qui a mieux compris le monde,
compris le monde parfois qu'il n'a compris la France. Je dirais qu'il se faisait une certaine idée du monde et peut-être pas une certaine idée de la France. Une certaine idée des Français, oui. Il était très proche des Français, il les comprenait. On mesure aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans la classe politique actuelle, à quel point un homme comme Chirac, et de Gaulle aussi d'ailleurs, parce que toute la période du RPF, il avait fait le tour de la France et des Français, à quel point Chirac était enraciné dans l'histoire des Français, dans ce qu'étaient les Français. Et peut-être parce qu'il les connaissait très bien. C'est peut-être ça qui a fait qu'il n'a pas été le réformateur qu'on aurait pu espérer.
Parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas réformer la France.
Parce qu'il pensait que c'était difficile de bousculer la France. Et de Gaulle pensait que il y avait la tradition et la révolution, et qu'entre les deux, c'était difficile de réformer et de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs lui réformé en période révolutionnaire, en 44 ou voire en 58, au moment du basculement du régime. Et il l'avait compris ça. Et je pense effectivement, il n'a pas bousculé l'ordre des choses.
Pour revenir sur les questions de communication, on associe quand même beaucoup Jacques Chirac à la langue de bois. Est-ce que pour vous, c'est exact de le dire ?
Ah, totalement. Je veux dire, le premier obstacle que j'avais à vaincre quand j'ai travaillé avec lui pour écrire ses mémoires, c'était la langue de bois. Et très rapidement, je lui dis, Monsieur le Président, écoutez, on va aller un petit peu au-delà. Donc très rapidement, il cassait cela, mais son refuge, c'était la langue de bois. Le refuge, c'était comment ne pas exprimer ce que l'on est et le fond de sa pensée pour ne gêner personne, au fond, et peut-être parce que c'est risqué, c'était la langue de bois.
Certaines de ces réparties sont tout de même restées légendaires, comme cet échange avec Michel Field lors de la campagne pour la présidentielle de 1995.
Réfléchissez deux minutes. C'est pas excessif.
Merci.
Ouais. Vous me dites, au fond,
vous n'avez... pas, hein.
Non.
Parce que deux minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a pris pour lire votre livre, alors s'il vous plaît.
Oui, je sais bien, malheureusement, j'avais pas mis... Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé.
Allons-y.
Jean-Luc Barré.
Bah, vous comprenez pourquoi j'aimais cet homme. C'est ce Chirac-là que j'ai connu. Et c'est pas anodin que ça se passe à ce moment-là. Là, il a cassé la cuirasse. Il a brisé un peu la cuirasse. Il a un peu cassé le moule. C'est-à-dire, nous sommes en 95 ou 94, au moment de l'élection présidentielle qu'il va gagner. On découvre un Chirac qui est pas le facho Chirac qu'on croyait, qui est pas le libéral qu'on croyait, qui est l'homme qui se préoccupe des autres, qui est drôle, qui a de l'esprit. Et donc qui emporte tout par la sympathie évidemment qu'il va susciter. Alors c'est comme s'il avait réussi tardivement à vaincre finalement le poids de toutes ces conventions qui l'écrasaient un petit peu.
Alors, il y arrive, mais seulement pendant la campagne, parce que une fois qu'il devient président de la République, au fond, la communication de nouveau est verrouillée. Il y a très peu de conférences de presse, très peu de moments où il y a des interactions avec les journalistes, alors que visiblement, c'est là où, a priori, il serait le meilleur. Donc, la campagne est un moment, pour lui, de révélation.
C'est un moment de vérité, c'est un moment de proximité avec les Français. parce qu'il a tout perdu. Enfin, il n'a pas tout perdu, il est encore maire de Paris, mais finalement, c'est sa dernière chance de conquête de l'Élysée. À ce moment-là, il est formé par quelqu'un qui s'appelle Jacques Pilan. Il est très accompagné par sa fille Claude. Il y a des gens avec lui comme Philippe Séguin et Trout, mais ils sont peu nombreux. Il a connu l'ingratitude à ce moment-là. Il a connu la trahison, trahison de Sarkozy, trahison de Balladur, de tous ces gens-là. Et donc, il y a des épreuves sur lui. C'est la dernière chance. Et c'est la dernière chance. Il a l'intuition, il n'est pas le seul à l'avoir, mais tout de même, il est porté par cette intuition, que c'est en revenant aux sources de lui-même, d'une certaine manière, de ce qu'il pense profondément de la France, de ce qu'il pense des attentes des Français, qu'il va peut-être gagner. Et en retournant aux sources, par exemple, c'est le moment où il va penser, pas au musée du Quai Branly, mais il rencontre Jacques Kerchache, à nouveau, qui est l'homme qui était un grand ethnologue et qui est un grand collectionneur surtout, et qui l'a, rapproché de lui-même. Ça faisait des années qu'il collectionnait des œuvres d'art premier, et il rencontre par hasard sur l'île Maurice cet homme qui va l'encourager finalement. Il va donc faire des expositions, par exemple en 92, une grande exposition sur les Taïnos au Grand Palais. Donc il se rapproche de lui-même.
Jacques Chirac ne semble pas apprécier particulièrement les confidences personnelles ou les révélations intimes. D'ailleurs, l'idée d'écrire ses mémoires semble même le rebuter. Archive.
Peut-être êtes-vous au plan de l'édition, une bonne affaire commerciale ?
Écoutez, je n'ai pas le sentiment d'être une bonne affaire. J'ai été très sollicité depuis plusieurs années pour écrire des livres et pour les donner. Beaucoup de maisons d'édition, et même certaines parmi les plus grandes, m'ont même proposé, de signer simplement un livre qui aurait été écrit par d'autres, et que d'ailleurs, je gardais le pouvoir, me disait-on très aimablement, de modifier dans le détail si cela m'intéressait. Je n'ai jamais accepté ce genre d'exercice, j'écrirai peut-être un jour quelque chose, mais ça ne sera peut-être pas très brillant, mais ce sera de moi. Et donc, je ne me suis pas prêté à ce genre d'exercice. Je ne suis donc pas une affaire pour les maisons d'édition. En tous les cas, pas jusqu'ici.
Jean-Luc Barré, cette archive de 1977, elle est spécialement pour vous, qui avez rédigé les mémoires de Jacques Chirac à la place de Jacques Chirac.
C'est plus compliqué que ça. Non, je pense que, vous savez, c'est une alchimie, ce genre d'exercice. J'ai des heures et des heures et des heures d'entretiens enregistrés dans lesquels il raconte beaucoup de choses. Donc, j'ai mis en forme souvent ce qu'il me disait. J'ai complété en ce sens que tout le monde sait qu'il était à cette époque-là un peu, non pas affaibli intellectuellement, mais il oubliait des choses. Il y a des choses qu'il a. Il aimait pas. Il avait dit, j'ai pas envie, je suis pas une vache qui revient à l'abreuvoir. Enfin, il n'avait pas envie de revenir sur le passé. Le passé l'intéressait pas pour des raisons multiples, ça l'obligeait effectivement, c'est une épreuve de vérité. Donc il n'était pas forcément enclin à le faire. Moi je dirais que ce livre, on l'a coécrit, vraiment. C'était, encore une fois, énormément de formules de lui, d'analyses sont de lui. Donc c'était un dialogue, un échange. Je pense qu'il n'aimait pas écrire. Il avait écrit d'ailleurs des souvenirs qui étaient restés inédits. S'il avait dû écrire, il aurait peut-être écrit de la poésie, mais c'était pas son mode d'expression favori, mais c'était un homme qui, encore une fois, dans le privé, quand il voulait bien être totalement lui-même, avait une façon de se raconter des expressions qui étaient faciles à restituer dans un travail commun. Il était très heureux d'avoir publié ses mémoires, après avoir été réticent à le faire, parce que d'abord, ça a été un immense succès, on a vendu près de 500 000 exemplaires. Donc,
comment vous expliquez d'ailleurs ce succès ?
Parce que la sympathie, parce que d'abord, alors, le premier volume paraît en 2009, et déjà, son successeur est devenu tellement impopulaire, je parle de Nicolas Sarkozy, que, ou en tout cas, on voit les limites du personnage de Sarkozy, on voit une certaine violence chez lui, on voit une certaine dureté de ces personnages-là, et subitement, évidemment, les gens reviennent vers Chirac, parce qu'il y a une nostalgie du Chirac humaniste, du Chirac proche du peuple, du Chirac homme de consensus, homme d'union, de dialogue, etc. Et donc, c'est le contraste qui le sert beaucoup, mais il y a une vraie sympathie pour lui, qui s'est manifesté d'ailleurs au moment de ses obsèques. Deuxième volume en 2011. Il faut voir qu'à ce moment-là, il ne croyait pas du tout que ça marcherait. Parce qu'il avait quitté le pouvoir dans les conditions où il l'avait quitté. Il était un peu oublié, il était très seul. Et assez malheureux, finalement, de ce départ du pouvoir. Et ça ne le souciait pas. Alors que son entourage y ait pensé, oui. Mais quelque part, on a un peu esquivé ça. Parce qu'on n'a pas fait le livre que l'entourage attendait.
Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français.
En devenant le cinquième président de la Ve République en 1995, Jacques Chirac a changé de statut face à l'histoire. Celui que l'on présentait comme un arriviste, un apparatchik, un agité suspect d'avoir de mauvaises manières, devient tout à coup un visionnaire et un fin politique. Succédant à François Mitterrand, il semble même tirer profit de la solennité que son prédécesseur avait cultivée dans la fonction et qui rejaillit sur lui.
Vous m'avez élu en mai dernier pour que nous construisions ensemble une nouvelle France.
Pourtant, c'est précisément cette profondeur qui lui a été déniée jusque-là, comme on l'entend dans le document suivant, extrait de la salle des archives. Nous sommes le 1er mars 1988 et Franz-Olivier Gisbert a publié, quelques temps plus tôt, le livre Jacques Chirac aux éditions du Seuil. Jean-Marie Colombani en parlait avec lui dans l'émission de Jacques Chancel.
Jacques Chirac devrait lui tresser des lauriers, parce qu'il arrive à nous faire croire qu'il y a un mystère Chirac, alors que moi je pense que les choses sont beaucoup plus simples, mais ça c'est tout son talent de nous croire qu'il y a un mystère Chirac. Je pense que moi je lui ferai deux reproches sur le fond. Je pense que d'une part il néglige la dimension bonapartiste du personnage. Jacques Chirac est à la tête d'un parti bonapartiste, même si lui-même est plutôt radical
socialiste.
C'est un mystère,
c'est un... Justement, tu dis...
Il y a une contradiction entre les bonapartistes qui l'entourent avec tout le cortège de menaces que ça peut
comporter. Là c'est bien un mystère.
Et
tu es un radical à la tête d'un parti,
un radical socialiste de tempérament.
Mais
et puis
c'est un mystère.
C'est un mystère si l'on veut.
De toute manière, on trouvera toujours du mystère à un homme politique.
Oui. Et la deuxième chose, je crois que il est un petit peu gentil avec lui dans la mesure où.
Mais il l'aime.
Oui, mais dans la mesure où, si vous voulez, la caractéristique. Rappelez-vous, Georges Pompidou disait de Jacques Chirac.
Il l'aime, il le châtie bien.
Georges Pompidou disait de Jacques Chirac, son problème sera de mûrir. Moi, je crois que c'est encore vrai. Franz nous dit que non, qu'il a mûri, et il ne le démontre pas.
Jean-Luc Barré, que retenez-vous de cet extrait ?
Il y a un vrai mystère Chirac. C'est là où je pense que François-Olivier Gisbert a parfaitement raison et que j'ai ressenti. C'est un homme, je ne peux pas dire que même après des heures et des heures d'entretien, des années d'entretien, j'ai réussi totalement à vaincre ce mystère-là, sinon pour dire que c'est difficile de trouver le point d'accord entre il n'est pas toujours en accord avec lui-même, et c'est pourquoi cet homme n'est pas toujours en accord avec lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans sa jeunesse, etc. Giscard cherchait toujours la raison de la faiblesse de Chirac, et pensait qu'il avait été traumatisé par sa jeunesse. Bon, je ne crois pas qu'il y ait de traumatisme. Peut-être quelque
chose...
C'est
pas quelqu'un qu'on voit comme quelqu'un de faible.
Non, c'est pas quelqu'un qu'on voit de faible, mais c'est pas quelqu'un qu'on voit d'heureux non plus. Et moi, j'ai jamais senti chez Chirac un homme heureux. J'ai senti un homme qui cherchait... Alors évidemment, je l'ai connu à une période particulière de sa vie où finalement la seule joie qu'il ait vraiment eue, à mon sens, c'est l'écriture au bout d'un moment de ses mémoires, parce que ça le tenait éveillé d'une certaine manière. Mais je pense que cet homme qui s'était marié, certes, c'est un mariage qu'encore une fois qui n'a jamais renié, donc il est resté avec sa femme jusqu'à la fin, mais en même temps on sait très bien qu'il a eu énormément de conquêtes amoureuses, donc il n'était jamais à sa place. Donc quelque part, je pense qu'il n'a pas été heureux, ni même en politique. Je crois que c'est quelqu'un qui le vrai mystère est là. Pourquoi Chirac n'est pas allé jusqu'au bout, à aucun moment n'est vraiment allé jusqu'au bout de lui-même, dans l'expression lui-même, et a tenu à garder toujours cette part de secret.
Sur la question des trahisons, parce que Chirac a beaucoup trahi, il a beaucoup été trahi lui aussi, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
D'abord, il disait que des gens qu'il avait trahis, qui l'avait trahi lui ? C'est-à-dire, il faisait référence à Balladur, à Sarko, etc., que tout le monde trahit tout le monde en politique. De ce point de vue-là, il avait une telle habitude de la politique et de la vie politique, il savait que c'était inhérent au jeu politique. La question de savoir pourquoi on trahit...
Ça fait partie du job, c'est tout.
Ça fait partie du job, il le savait, il l'avait appris, lui, et puis lui-même a été trahi, donc voilà. Donc, mais il avait, de ce point de vue-là, une forme d'indulgence, enfin de fausse indulgence d'ailleurs, à l'égard de ceux qui l'avaient trahi.
Des ennemis, Jacques Chirac en avait beaucoup, lesquels ont produit des contre-récits visant à le combattre sur le terrain de l'image en publiant des ouvrages critiques, des livres dont il disait se désintéresser.
Vous savez, quand on est un homme politique, il faut s'attendre à beaucoup d'attaques, comme d'ailleurs à beaucoup de flagorneries. Je suis actuellement au stade...
Vous préférez les attaques, sans doute.
Oui, je suis d'ailleurs actuellement au stade où ce sont surtout les attaques qui se développent. Et je vois effectivement, vous avez raison de le souligner, sortir un certain nombre de livres dont l'objectif, plus ou moins bien atteint, est de caricaturer ma personne, mon action, de raconter sur ma vie des choses d'ailleurs généralement fausses et même parfois ridicules. Mais ceci est, je dirais, un peu la règle du jeu. Et la seule chose qui m'intéresserait de savoir dans ce domaine, ce n'est pas tellement la motivation de leurs auteurs, qui sont pour certains tout à fait médiocres, pour d'autres qui ont un certain talent, mais qui sont tous désireux de me nuire. Ce que je voudrais surtout savoir lorsque je vois les maisons d'édition qui prennent ce genre de livres, c'est l'origine des fonds qui ont permis de faire cette opération. Hélas, je ne le sais pas.
Ils préféraient laisser dire que s'expliquer. Voilà. Donc le seul auprès de qui il s'est expliqué, c'est au fond, c'est moi, puisque ça faisait partie de notre travail commun. Mais il n'aimait pas raconter, et quitte à brouiller les pistes, ça lui était égal. Pour préserver cette liberté, il avait chez lui un goût de la liberté, encore une fois, qui avait toujours été un peu cadenassé et retenu. Donc pour préserver cela, il préférait laisser prospérer des contre-vérités parfois.
Est-ce que vous pensez qu'il a été davantage attaqué que d'autres ?
Non. Non, je crois pas. Il n'a pas été plus attaqué que François Mitterrand. Il n'a pas été plus attaqué que le général de Gaulle. Loin de là. Non, il a laissé. Il est un peu responsable de la fausse, de la mauvaise image qu'il a eue parfois. Il est un peu responsable parce qu'il n'a pas cherché à corriger ça, qu'il a même pensé que ça lui servait.
Et c'est peut-être vrai. Ça lui a peut-être
oui,
en
mais
effet
bien sûr,
donné
bien
un
sûr.
Côté proche du peuple qu'il n'aurait pas ah eu.
Non, mais
autrement.
On lui a jamais reproché d'être proche du peuple. Je veux dire, mais il a laissé, par exemple, s'installer l'image d'un type autoritaire qu'il n'était pas, d'un type cassant qu'il n'était pas, sinon par timidité d'ailleurs, on parlait de timidité tout à l'heure, ça c'est sans doute vrai, d'un type un peu maladroit dans l'expression, d'un type plus à droite qu'il ne l'était, d'un type plus bourgeois, il n'était pas bourgeois du tout, enfin il était anti-mondain, il détestait tout ça. Ce qu'il aimait, c'est aller dans un bistrot boire de la bière, enfin c'était ça, Gérard, quelque part, et pas seulement, il y a aussi quelque chose de très raffiné chez lui, dans ses goûts asiatiques. Donc cette complexité-là, il ne voulait pas qu'elle se voie, donc quelque part elle n'a pas été vue, et il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'il s'était fait quand même beaucoup d'ennemis politiques. Et au fond, comme il communiquait mal avec les journalistes, comme il n'avait pas le souci de ça, contrairement à François Mitterrand, alors il a laissé prospérer beaucoup de malentendus et de préjugés sur lui. Un journaliste, par définition, c'est quelqu'un qui va vous poser des questions. On le voit bien dans les interviews. Regardez l'embarras qu'il a quand il répond à Jacques Chancel. Et pourtant, c'était Jacques Chancel. Donc, un journaliste vous oblige à vous dépasser, à vous livrer. Et il ne voulait pas de ça. Donc, il se prêtait à cet exercice à contre-cœur. C'était pas ce qu'il aimait. Et donc, il avait peu de journalistes amis. Il a eu quelques journalistes, mais qui étaient des camarades de Sciences Po. Mais globalement, c'était pas un monde qu'il aimait. Il aimait pas ce Il avait vu, d'ailleurs, dans différentes affaires, le comportement de ce monde-là, il ne l'aimait pas.
Eh bien, écoutez, j'ai réussi jusqu'ici, ou presque, à dire ce que je pensais, à dire ce que je voulais, à dire ce que je critiquais, et à ne pas importuner les auditeurs ou les téléspectateurs par ni mes états d'âme, ni mes problèmes personnels, mes goûts personnels, qui sont mon jardin secret et dont j'entends bien qu'il le reste.
Ça résume assez bien les choses.
Oui, ça les résume, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça a nourri aussi le personnage de Jacques Chirac. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'aurait donné un Jacques Chirac livrant ses états d'âme, parlant de ses goûts. Par exemple, imaginez qu'il ait cherché à se faire élire président de la République en disant j'aime la musique chinoise ou le japonaise. On dit c'est qui cet homme? Il nous est étranger. Donc il a cherché à se faire naturaliser, si je puis dire français, par ses postures, par des goûts qui n'étaient pas forcément les siens. Mais peu importe, je pense qu'il y a eu aussi un dépassement de soi chez lui et il a habité un personnage dans lequel les gens se sont reconnus. Parce que malgré tout, il y a une vérité dans ce personnage, même public. Tout n'était pas faux, loin de là. Mais ce qui est vrai, c'est ce mystère de cet homme. Pourquoi se construire contre soi-même? Bon, ça fait partie effectivement du mystère Chirac.
Jacques Chirac a quitté le pouvoir mal aimé des Français et pourtant, il semble connaître aujourd'hui une sorte de retour en grâce. On l'a bien perçu au moment de sa mort, le 26 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, à travers l'émotion que cette disparition a suscitée.
«
effet de nostalgie ou réévaluation de son action à la tête de la France, c'est ce que nous allons tenter de voir au cours de notre dernier épisode.